Véroa Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et bon réveil à l'écoute de VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pineau et Anne Albertson ce matin à la une de notre émission.
La condamnation d'un ministre centrafricain à 2 ans de prison dans une affaire de mœurs.
Grogne sociale persistante au Togo à 2 semaines de l'élection présidentielle.
Dzhokhar Tsarnaïev, reconnu coupable pour sa participation aux attentats de Boston, il encourt la peine de mort.
Vos rendez-vous habituels après le journal La Minute Éco et le journal des sports, le Gabon organisera la CAN 2017. Les étalons du Faso espèrent briller dans les éliminatoires.
Une super CAN puisque ce pays est très accueillant et très sympathique. Donc tout le monde va pouvoir participer dans une CAN très joyeuse, certainement en 2017 au Gabon.
On entendra tout à l'heure Guerre Notre Or, mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
En Centrafrique, condamnation à 2 ans de prison du ministre Romaric Vomitiadé. Le tribunal correctionnel de Bangui l'a condamné pour attentat à la pudeur consommé avec violence, mais n'a pas retenu les accusations d'actes de pédophilie et d'entrave à l'émancipation d'une jeune fille de 16 ans.
Le ministre est composé d'une amende de 300 000 francs CFA et 2 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Ses avocats ont fait appel de la décision et dénoncent un complot politique. Écoutons l'un d'entre eux, maître Jean-Louis Opalania.
Je constate que c'est une parodie de procès. La décision ne correspond même pas aux faits. On ne peut pas tirer argument de ce que des habits ont été exhibés à l'audience pour condamner quelqu'un. En plus, un ministre encore en fonction par le tribunal de grande instance a une condamnation ferme. Le juge disqualifie les infractions de pédophilie et d'atteinte à la liberté, à la promotion et au développement de la jeune fille, mais ne dit pas quelle est l'infraction envers laquelle il est réqualifié. Il s'arrête seulement à disqualifier et il va dans l'attentat à la pudeur consommée avec violence. Il s'agit d'un complot dont les sources sont diverses. Il y a d'abord le camp duquel il est sorti pour être ministre, il y a en plus son département ministériel, il y a enfin ses collègues membres du gouvernement qui ne veulent plus de lui parce qu'il est tombé sur un dossier compromettant à l'égard d'un ministre conseiller à la présidence.
Maître Jean-Louis Opalania, il était joint par Félix Yepassi Zembrou.
Les suites de l'adoption du nouveau code électoral au Burkina Faso, le gouvernement de transition salue le bon déroulement de ce vote et appelle l'ensemble des acteurs de la classe politique, de la société civile et des populations à accompagner sa mise en œuvre. Selon ce texte adopté par le CNT, les partisans du président déchu Blaise Compaoré sont exclus des élections présidentielles et législatives d'octobre prochain.
Découverte d'une fosse commune à Kinshasa, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme va accompagner la mission d'enquête diligentée pour faire la lumière sur les 421 corps retrouvés à Maluku. Charles Bambara est le porte-parole de la MONUSCO.
Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme va accompagner cette mission d'enquête qui a été diligentée sur le terrain pour aider à voir un peu plus clair sur les circonstances qui entourent cette fosse commune. Et la MONUSCO se réjouit par ailleurs qu'une enquête judiciaire ait été ouverte déjà. Et nous offrons, nous, MONUSCO, notre concours à l'équipe des techniciens sur place qui ont entamé donc les enquêtes sur le terrain. Nous attendons de prendre connaissance des détails de ce rapport des enquêteurs sur place et donc à la fin des enquêtes que nous comptons une fois de plus accompagner, la MONUSCO est vraiment décidée à faire la lumière sur cette affaire.
Charles Bambara au micro de Top Congo FM, notre partenaire à Kinshasa.
Nouveau scrutin au Nigeria en prévision des élections régionales prévues samedi. Les frontières terrestres du pays sont fermées depuis cette nuit jusqu'à dimanche, 11h, temps universel, selon le ministère nigérian de l'Intérieur. Le Nigeria partage des frontières avec le Bénin, le Niger, le Tchad et le Cameroun.
Une mesure similaire avait été prise lors des élections présidentielles et législatives du 28 mars. Les élections de samedi concernent les gouverneurs et les parlements des États de la Fédération nigériane.
Arrestation en Ouganda d'un ancien détenu de la prison de Guantanamo. Jamal Kiyemba est soupçonné d'avoir joué un rôle dans le meurtre le mois dernier à Kampala de la procureure Joan Kagezi. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
Kiyamba, qui est ougandais, a été appréhendé en compagnie de 3 compatriotes à Kampala, a indiqué hier Fred Enanga, porte-parole de la police. Arrêté au Pakistan en 2002, Kiyamba avait été envoyé à Guantanamo. Il a regagné l'Ouganda après sa libération en 2006. Selon les autorités ougandaises, des agents gouvernementaux américains ont appuyé l'opération, ayant abouti à ses arrestations. Le service Swahili de la VOA chiffre à 16 le nombre total de personnes interpellées en rapport avec le meurtre, le 30 mars dernier, de la procureure Joan Kagezi. Cette dernière était chargée des poursuites contre les auteurs présumés des attentats de juillet 2010, qui avaient fait plus de 70 morts et 65 blessés dans la capitale ougandaise. Ces attaques, qui visaient des spectateurs de la Coupe du monde de football 2010 dans des lieux publics, avaient été revendiquées par le groupe Al-Shabaab.
Un nouveau candidat à la présidentielle ivoirienne, prévu d'ici la fin de l'année, Kakou Niangbo, député indépendant de l'Assemblée nationale, s'est déclaré candidat dans un scrutin où Alassane Ouattara, le président sortant, est archi favori.
Le secrétaire d'État américain salue le rôle d'Alger en matière de sécurité régionale et notamment ses efforts de paix dans les conflits au Mali et en Libye. En recevant le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, John Kerry a loué la coopération en matière de sécurité, pierre angulaire de la relation entre les États-Unis et l'Algérie. Monsieur Lamamra lui a répondu que sur la question du terrorisme, la qualité et l'efficacité de notre coopération étaient une source de satisfaction.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, à Boston, un jury fédéral a reconnu coupable Zohar Tsarnaev d'avoir perpétré les attentats de 2013 qui ont fait 3 morts et 264 blessés. C'était lors du célèbre marathon de cette ville du Massachusetts. Les précisions de Michel Joseph.
Coupable de la totalité des 30 chefs d'accusation retenus contre lui, dont 17 passibles de la peine de mort. C'est dans la deuxième phase du procès, qui commence la semaine prochaine, que le jury devra prononcer la sentence, la prison à vie ou la mort. Le verdict n'était pas une surprise dans la mesure où les avocats de Tsarnaev n'avaient pas contesté les faits contre leurs clients, utilisation d'armes de destruction massive et complot, en particulier les cocottes minutes, qui ont explosé à la ligne d'arrivée du marathon. La défense, qui soutenait que le jeune Zohar était seulement victime de l'influence maléfique de son grand frère Tamerlan, plaide maintenant pour la prison à vie. Selon Zohar Tsarnaev, les attentats visaient à venger, avait-il écrit, les attaques des États-Unis contre les musulmans dans les guerres en Irak et en Afghanistan.
Barack Obama est arrivé cette nuit en Jamaïque, un pays où aucun président américain en exercice ne s'était plus rendu depuis Ronald Reagan en 1982. Monsieur Obama participera ce jeudi à Kingston à une rencontre de la CARICOM, la communauté caribéenne. Après la Jamaïque, il se rendra au Panama où il doit rencontrer le dirigeant cubain Raúl Castro au sommet des Amériques en fin de semaine.
La chaîne francophone TV5 Monde a été piratée cette nuit par des individus se réclamant du groupe djihadiste État islamique. Les hackers l'ont empêché d'émettre pendant plusieurs heures et ont pris le contrôle de ses sites internet et pages Facebook.
Le régime syrien juge qu'une opération militaire est désormais nécessaire pour chasser les djihadistes du groupe État islamique du camp de Yarmouk près de Damas. Sur place, des dizaines de milliers de civils sont pris au piège des combats. Pour l'Union européenne qui a débloqué une aide d'urgence pour aider les habitants du plus grand camp palestinien de Syrie, la souffrance des habitants a atteint des niveaux intolérables.
L'aide humanitaire commence enfin à arriver au Yémen. Deux premiers bateaux sont arrivés hier dans le port d'Aden, où depuis 2 semaines les combats ont fait un grand nombre de victimes civiles. L'Organisation mondiale de la santé a revu à la hausse son bilan depuis le début des violences au Yémen. 643 personnes sont mortes et plus de 2000 autres ont été blessées depuis le 19 mars.
Enfin, les combats qui opposent partisans et adversaires du président Abdrabo Mansour Hadi, qui a pris la fuite en Arabie Saoudite. L'armée de l'air américaine a commencé hier à ravitailler en vol les avions de chasse de la coalition menée par l'Arabie Saoudite qui bombarde les rebelles aussi. C'est ce qu'a annoncé le Pentagone.
VOA Afrique, c'est l'heure de la Minute Éco, présentée ce matin par Jean-Roger Bire.
Lutte contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire, le gouvernement a autorisé hier en Conseil des ministres la création d'une agence nationale pour l'emploi des jeunes. Le porte-parole du gouvernement ivoirien Bruno Koné explique les missions de cette nouvelle institution.
Cette agence permettra également de fédérer, de fortifier tous les efforts qui sont aujourd'hui menés en matière d'emploi, de créer plus de synergies entre les acteurs et entre les différents programmes et initiatives en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes.
Bruno Koné, porte-parole du gouvernement ivoirien, ivoirien dont les propos ont été recueillis par nos confrères de la RTI. L'opérateur de l'électricité au Cameroun, Eneo, a annoncé la mise en place d'un programme d'investissement de l'ordre de 37,7 milliards de francs CFA pour 2015. Dans une note publiée mercredi sur le sujet, la filiale du fonds d'investissement britannique Actis indique que 16,2 milliards de francs CFA seront prêtés par les banques, le reste devant être dégagé du produit des ventes de la compagnie. 37% de l'enveloppe seront destinés au renforcement du réseau de la distribution, 43% pour la production et le transport et 20% pour le commercial et les activités de support. Et ici aux États-Unis, après Amazon qui espère un jour utiliser des drones pour des livraisons, l'assureur américain AIG a obtenu l'autorisation de les faire voler sur le territoire américain, notamment pour évaluer les dégâts après les catastrophes. AIG a annoncé mercredi avoir reçu le feu vert de l'Agence fédérale de l'aviation, la FAA, pour utiliser ces engins volants dans le cadre d'inspections destinées, par exemple, à évaluer ou gérer des risques.
Merci Jean-Roger pour cette Minute Éco. On passe au sport. La page des sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nicolas.
L'information, c'est bien évidemment la CAN 2017. C'est le Gabon qui va accueillir la 31e Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, le Gabon accueillera l'édition 2017 de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Gabon a été préféré à l'Algérie et au Ghana pour organiser cette 31e CAN. Cette édition devait initialement se disputer en Libye avant que ce pays, en proie à une guerre civile, ne se désiste. Parmi les 13 groupes de qualification, deux sont particulièrement relevés. Il s'agit du groupe G du Nigeria avec l'Égypte, la Tanzanie et le Tchad. Il y a aussi le groupe M où on retrouve le Cameroun, l'Afrique du Sud, la Gambie et l'île Maurice. Le Cameroun est une grosse pointure du football africain et les Bafana Bafana, vous vous souvenez, avaient fait forte impression lors de la dernière CAN. Absente de la dernière CAN, la Centrafrique se retrouve dans le groupe B en compagnie des Léopards de la RDC, de l'Angola et de Madagascar.
Et Bagassi, le champion en titre, la Côte d'Ivoire, est versé dans le groupe I avec le Soudan, la Sierra Leone et le Gabon. Les matchs contre les Gabonais ne seront pas comptabilisés car le pays organisateur est automatiquement qualifié.
Autre groupe à noter, le groupe D où le Burkina Faso se retrouve face à l'Ouganda, le Botswana et les Comores. Lors de la dernière CAN, les étalons ont réalisé une piètre CAN et leur nouvel entraîneur, le franco-allemand Gernot Rohr, espère que ses poulains pourront se racheter.
C'est un groupe qui est relevé parce que ce soit le Botswana ou l'Ouganda, c'est deux très bonnes équipes. Et les Comores ne sont pas à sous-estimer. Donc on va vraiment bien se préparer pour finir premier de ce groupe. Ça ne sera pas facile. Et surtout les matchs au Botswana et en Ouganda sont des matchs redoutables. Donc il faudra être prêt. Le premier adversaire, ça sera les Comores à Ouagadougou au début du mois de juin. Déjà là, il ne faudra pas sous-estimer cet adversaire qui est un adversaire peut-être pas très... très connu, pas composé de beaucoup de joueurs professionnels, mais quand même un adversaire respectable. Et après, il y aura les deux gros matchs contre Ouganda et Botswana. Donc ça sera un groupe difficile pour nous, puisqu'il faudra finir premier pour se qualifier.
Mais le coup est jouable.
Le coup est jouable, bien entendu, parce qu'il y a quand même une bonne équipe. Une équipe qui a un petit peu raté sa CAN, mais qui a envie de se racheter et qui est très motivée pour être au Gabon, surtout moi qui connais bien ce pays. Pour avoir entraîné les Panthères, voilà, ça me fera plaisir de les retrouver à la CAN 2017, que ce soit à Libreville ou à Franceville.
La première journée des qualifications débutera les 12, 13 et 14 juin prochains et la sixième et dernière journée aura lieu les 2, 3 et 4 septembre 2016. Retrouvez tous les autres groupes et l'actualité de la CAN sur voafrique.com.
Allez, à présent, le football européen. Résultat hier soir, le Paris Saint-Germain peut croire à un historique triplé dans les compétitions nationales après sa qualification face à Saint-Étienne, 4 buts à 1, triplé de Zlatan Ibrahimovic. Le PSG est donc qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue, la finale de la Coupe de France et reste premier en championnat. De l'autre côté des Alpes, la Lazio de Rome a gagné 1-0 en demi-finale retour de la Coupe d'Italie. Les Romains rejoignent en finale la Juventus de Turin.
Et pour terminer, Nicolas, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Grosse soirée hier avec 13 matchs au programme. Toujours quelques places à prendre pour les playoffs. Victoire précieuse de Boston à Détroit, 113 à 103. Leader de la conférence Est, Atlanta, bat Brooklyn, 114-111. Toronto domine Charlotte, 92-74. Orlando bat Chicago sur le fil 105 à 103. Les Wizards de Washington dominent Philadelphie sur son parquet 119 à 90. Et dans le derby texan, San Antonio a battu Houston 110 à 98. Et on remercie Bagassi Koura pour ce journal des sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand bonjour à tous. Si vous nous rejoignez en ce jeudi matin, vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. Retour sur la décision de la présidence française de déclassifier les archives de l'Élysée pour la période 1990-1995. L'association des rescapés du génocide au Rwanda salue cette annonce. Joint par Nathalie Barz, Jean-Pierre Douzinguzemungu, président d'Ibuka Rwanda, a toutefois dit espérer que la France rende accessible la grande majorité des documents.
Bien, nous avons accueilli avec joie ce message de Paris, parce que le message intervient à une période sensible, la période où nous commémorons le génocide. C'est un message qui vient nous dire que la France, maintenant, commence à s'impliquer, à répondre aux différentes questions que nous posons souvent. Nous avons demandé chaque fois qui est la déclassification et donc nous sommes contents que les autorités françaises aient pris cette décision. Mais nous émettons cependant une réserve par rapport à ça parce que nous voudrions que tous les dossiers soient accessibles et qu'ils ne retiennent que des dossiers qui ne posent pas de problème. Nous espérons qu'à travers les documents qui seront déclassifiés, il y aura la corroboration de ce qui est déjà connu pour justement permettre à tout le monde d'avoir accès à la vérité, qui pourrait aussi donner l'occasion aux autorités françaises de pouvoir dire « voilà, eh bien, nous acceptons cette responsabilité et nous demandons pardon ».
Vous semblez avoir, et depuis 20 ans, de nombreuses preuves finalement de ce que vous affirmez. Est-ce que vous les partager, notamment avec la justice française,
oui,
etc.
On les partage et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de publications là-dessus et de publications qui se basent sur des documents. Maintenant, nous attendons que les autorités françaises fassent la même chose. En tout cas, s'il y a une déclassification des documents, moi j'espère que ces documents soient accessibles à tout le monde, aux associations, aux différents chercheurs, parce que ce ne sont pas que les Rwandais qui veulent bien consulter ces documents. Ce serait un début d'une amélioration définitive des relations entre la France et le Rwanda.
Jean-Pierre Douzinguzemungu, président d'Ibuka Rwanda, il était joint à Kigali.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
Les Camerounais déplacés par les incursions de Boko Haram dans l'extrême nord du pays disent qu'ils vivent dans des conditions désespérées, parfois plusieurs jours sans nourriture, sans eau ni médicaments, comme nous l'explique Bagassi Koura.
Quand des écoliers déplacés ici dans une école publique de Mora, à environ 25 km de la frontière nigériane, leur maîtresse Alice Feyou dit que les enfants étudient dans des conditions très difficiles.
Cette classe est surchargée, comme vous pouvez le voir. Je ne peux que faire avec. Il n'y a même pas moyen de se déplacer dans la classe, mais j'essaye de mon mieux. Il y a des maladies, vous avez la toux, la fièvre. Et comme la salle de classe est bondée, ils ont des plaies sur les jambes.
Lawan Detakone, directeur de l'école publique de Kolofata, non loin de Mora, reconnaît qu'il a du mal à s'occuper des enfants camerounais dans leur propre pays.
Ici, au campus, ils sont au moins 520. Il y a beaucoup de choses qui manquent concernant le WC. Un seul point d'eau pour 500 élèves, ce n'est pas facile.
Il affirme que plus de 500 élèves dans son école ont une seule source d'eau potable et ils n'ont pas de latrine. Le gouvernement du Cameroun affirme qu'au moins 70 000 enfants d'âge scolaire et 100 000 personnes ont été déplacées par l'insurrection de Boko Haram. Fekwe Ngaha Joseph, chef du village d'Amang, près de Mora, dit avoir demandé aux bonnes âmes de prendre en charge les personnes déplacées arrivant dans son village.
Depuis 8 mois, église par église, mosquée par mosquée, on collecte un peu de 1000, on se nourrit avec. On avait recensé 1692 dans ce village.
Moussa Ibrahim, ses 3 femmes et 9 enfants ont quitté Fotokol il y a 2 mois après une attaque des combattants de Boko Haram qui a fait au moins 500 morts. Il affirme que la nourriture qu'ils reçoivent du chef Fekwe Ngaha Joseph est largement insuffisante.
Si vraiment les autorités nous comprennent, il faut qu'ils fassent quelque chose. Il y a les enfants qui ne trouvent pas à manger. Souvent, nous les grands, on n'arrive pas à manger. On donne aux enfants, nous on ne mange pas. On boit la bouillie sans sucre. Souvent, les femmes préparent la sauce. La sauce est déjà préparée, il fait descendre ça sur le feu, mais ils ajoutent l'eau. Les gars, on peut manger ça? On ne peut même pas manger.
Le vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Joseph Mbandam, déplore que son pays se concentre beaucoup plus sur la lutte contre Boko Haram que sur la prise en charge des déplacés internes.
Cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur le Niger. Face à la menace Boko Haram et l'insécurité alimentaire, comment va ce pays dirigé depuis 4 ans par Mahamadou Issoufou? Nous en parlerons à l'occasion d'une interview que nous a accordée le président nigérien. Laissez vos commentaires sur notre page Facebook et à jeudi 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Comme annoncé par les autorités du pays, la marche de la synergie des travailleurs du Togo a été empêchée hier dans les rues de Lomé, la capitale. Les syndicalistes exigent toujours la revalorisation de la grille salariale des fonctionnaires togolais. Reportage de notre correspondante sur place, Kay Lawson.
La marche de la STT entendait synergie des travailleurs du Togo qui devrait aboutir au ministère de la fonction publique n'a pas pu se tenir hier mercredi. Le ministère de l'administration territoriale a interdit la manifestation car, dit-il, la STT n'avait pas effectué l'ensemble des démarches et formalités relatives à la déclaration de son statut et de son existence juridique. Un raisonnement qui ne tient pas dans le monde syndical, répond Nalu Lawson Olukunle, coordinatrice de la STT.
Ce n'est pas le dépôt légal qui nous légalise. Le dépôt légal est une formalité administrative que les syndicats doivent faire. Mais ce n'est pas elle qui nous légalise. Le syndicat est légal dès le jour de son congrès. Et nous avons fait notre congrès depuis le 6 février 2015. Donc cette interdiction est une violation flagrante du droit syndical dont se rend coupable notre gouvernement.
Empêché par les forces de l'ordre, la marche s'est transformée en un sit-in au cours duquel les syndicalistes sont revenus sur la revalorisation de leur salaire. Gilbert Cholenyanou, porte-parole de la Synergie, s'adressant aux manifestants.
Nous allons nous battre pour que nos salaires s'améliorent. Nous allons nous battre pour que nous aussi nous puissions avoir un peu d'argent. Parce qu'il y en a qui ont amassé autant d'argent, ils nous payent des miettes. Quelle que soit la situation, nos salaires changeront.
Étant donné que cette période est celle électorale au Togo, la Synergie des travailleurs du Togo a décidé de faire une trêve sociale dès le début de la campagne électorale qui commence demain jusqu'à la fin du processus.
STT !
Hourra !
STT !
Hourra !
Synergie !
Hourra ! Hourra ! Hourra !
Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Direction le Mali, où la justice transitionnelle était au centre d'une rencontre à Mopti. Organisée par la division des droits de l'homme de la MINUSMA, cette rencontre a regroupé la société civile venue de tous les cercles de la région de Mopti. Reportage sur place de Mamadou Boko.
De 2012 à nos jours, le Mali a connu une crise politico-sécuritaire sans précédent. Une crise qui a entraîné des violations des droits humains sous toutes ses formes. En cette phase de réconciliation, il est impérieux de trouver des moyens et stratégies pour créer une confiance entre les Maliens, d'où la création de la justice transitionnelle. Une rencontre a eu lieu sur la question à l'intention de la société civile mopticienne. Ousmane Kan est le chef de bureau régional de la MINUSMA Mopti.
L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs de la société civile qui doivent jouer un rôle primordial dans le processus de paix au Mali, mais aussi dans les mécanismes de justice transitionnelle au Mali. L'idée, c'est de donner des connaissances et des compétences à ces acteurs en vue d'une bonne participation, d'une participation active dans ces mécanismes de justice transitionnelle.
La centaine de participants sont venus de Bandiagara, Bankas, Kourou, Djenné, Douanza, Yuaru, Tenenku et Mopti. parties. Ils doivent jouer leur partition pour la réussite de ce mécanisme. La justice transitionnelle pourrait-elle être une solution de la crise malienne? Le chef de bureau régional de la Minusma Mopti répond.
Ah bien sûr, c'est une justice transitionnelle qui a été établie parce que dans ce pays, il y a eu un conflit et il y a eu des violations des droits de l'homme. Il faut bien qu'il y ait une justice transitionnelle, non seulement pour rétablir la vérité, mais aussi pour réparer les victimes. Et donc c'est très important comme processus dans tout pays qui a connu une crise politique ou une crise sociale.
La justice transitionnelle repose sur 4 piliers. Le droit à la vérité et à la justice. Il y a aussi le droit à la réparation et surtout la garantie des non-répétitions. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Djamena vit au rythme de la canicule. En ce mois d'avril, la chaleur est insupportable de jour comme de nuit. Cette situation paralyse de nombreuses activités, notamment les cours dans les écoles. André Kodmajingar, de notre partenaire FM Liberté à Djamena, fait le point.
À peine entamé le mois d'avril, la température varie entre 30 et 48 degrés à l'ombre dans la ville de N'Djamena. Mais, comparativement aux années passées, certains habitants estiment qu'il y a moins de coupures d'eau et d'électricité cette année.
Surtout ce mois d'avril, je pense que c'est un mois exceptionnel. Jusque-là, on n'a pas eu encore un cas de l'essage, tout ça. Même l'eau, ça coule bien.
L'électricité, ces derniers temps, je pense que ça va un peu.
Il faut mouiller la cervelle, parce que ça, c'est des moyens palliatifs.
Les avis sont partagés. Les habitants des quartiers périphériques de la ville de N'Djamena subissent beaucoup plus les effets de la chaleur due, surtout au manque d'eau et d'électricité dans leur quartier.
C'est un moment très dur. Parce qu'ici à Walia, surtout, nous sommes exposés. On n'a pas d'ombre. À partir de 10 heures déjà, là, c'est tout. Tout le monde est sur les nerfs parce qu'il fait très chaud. C'est pas tout le monde qui a l'électricité chez lui. Alors, mais les enfants sont souffrants, surtout les enfants. Nous, même là, je ne vois pas pourquoi le gouvernement n'a pas songé à la population de Walia. Tout le monde est dehors. Même les enfants, quelquefois, à minuit même, là, ils ne font que pleurer.
Cette situation a aussi des répercussions négatives sur les activités maraîchères. C'est le cas de ce jardinier qui ne vit que de cette activité.
Les tomates et les salades ne supportent pas la chaleur. En cette période de canicule, les tomates mûrissent et pourrissent vite. C'est une perte pour moi parce que je n'ai pas de moyens pour conserver pendant longtemps. Ces tomates que vous voyez là viennent du lac Tchad parce que là-bas, il ne fait pas chaud comme ici.
Cette canicule joue également sur les élèves et étudiants. L'eau et l'électricité se font de plus en plus rares dans ces institutions universitaires et scolaires.
Nous souffrons énormément. L'eau, ça vient temporairement dans la salle. La chaleur ne nous permet pas carrément de faire cours. Et même les anciens ne peuvent pas résister.
Pour le moment, on a 2 heures avec notre professeur de l'éducation de citoyenneté. On n'a pas pu faire ces 2 heures par rapport à la chaleur. Ça peut aussi conduire aussi à nos échecs.
Dans les 2 jours successifs ici, on a constaté vraiment une augmentation de la chaleur qu'on ne peut pas supporter.
Comme nous sommes des Tchadiens, on est obligé de faire avec.
La chaleur, elle nous fatigue. Tu es en train de couper les cours, les cahiers sont mieux. Ton cahier, c'est comme si c'est un cahier d'un enfant. Hier, la sueur, ça me fatigue, donc je suis obligé de sortir à 8h30 pour rentrer.
Il ne fait pas bon vivre en cette période de canicule à N'Djamena, la future vitrine de l'Afrique centrale. Une situation qui amène certains responsables des établissements scolaires à modifier leur programme d'enseignement. André Kodomajingar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Awesome. Aye. Yeah. Okay. Peace Square in it. Oh, yeah. TFP. Hey. Hit the king in it. Hey. Yeah. You know. I know you heard about it. Yeah.
Gonna have some fun tonight, yeah. I don't taste the money, so we can do whatever we like. We go to US, Nigeria, Korea, Ghana, Peru,
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. Nicolas Pineau à la présentation. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Avant de se quitter, saluons Lassana Diakité au Mali. Il est sur la route de Diabali, mais également Komlan Wanaye à Cotonou, c'est au Bénin. Comme retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Soyez au cœur de l'info sur VOA.